Une femme m'a contacté avec un projet qu'on pourrait qualifier de stupide. Elle voulait aller au mariage de son amie au Cameroun. C'est ça le projet. Un billet d'avion, un mariage, une amie, une fête, une célébration. Elle voulait aller au mariage de son amie au Cameroun. Sur le papier, ça ne ressemble à rien. Si quelqu'un m'avait résumé ça comme ça, j'aurais levé un sourcil parce que je me serais demandé qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut que j'achète un billet d'avion? Est-ce qu'elle veut que je l'accompagne? Ça me concerne pas. Son amie, je la connais pas. Pourtant, c'était ça son projet. Elle voulait aller au mariage de son amie au Cameroun et pour elle, j'étais la seule personne qui aurait pu rendre ça possible. J'ai accepté de travailler avec elle pour une raison. Elle était venue vers moi pour le mariage, c'est vrai. Mais en réalité, le mariage était l'arbre qui cachait la forêt. 1, 2, 3, 4. Je vais appeler cette femme Laura. Ce n'est pas son vrai prénom parce que je veux protéger son identité, mais son histoire à elle est entièrement réelle. Laura me connaissait. Elle me suivait depuis un moment déjà. On avait échangé de nombreuses fois sur Instagram. Elle savait ce que je valais en tant que coach et ce n'était pas une question pour elle. Pourtant, quand elle est venue vers moi, elle ne s'attendait à aucun résultat. J'étais vraiment le dernier rempart. Elle s'est dit, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Je sais qu'avec elle, ça ne marchera pas, mais j'essaie quand même pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas absolument tout essayé. Tout à l'heure, je l'ai dit, elle n'avait aucun doute sur ma qualité en tant que coach. Ce qu'elle pensait, c'est que sa situation était tellement désespérée que personne ne pouvait la régler. Elle ne pouvait être réglée par qui que ce soit. Ce n'était pas qu'elle avait profondément confiance en moi, c'est qu'elle était épuisée. C'était quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et qui voulait pouvoir se dire « j'ai au moins tout essayé ». Je vais marquer une pause ici et te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà investi dans quelque chose, non parce que tu y croyais, mais parce que tu ne savais plus quoi faire d'autre? Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai fait remplir à Laura une fiche d'information pour démarrer l'accompagnement. Retenons bien qu'elle est venue vers moi parce qu'elle voulait aller au mariage de son amie. Quand j'ai lu sa fiche d'information, j'ai compris ce qui se jouait vraiment. Laura, c'était une femme qui suffoquait dans sa propre vie. Elle a parlé d'insomnie, elle a parlé de palpitations. Elle m'a dit dans ses propres mots, « Je me sens de plus en plus mal, de plus en plus triste. Je procrastine systématiquement. Je ne suis pas en harmonie avec moi-même. » Et puis, cette phrase qui m'a marquée, émotionnellement et intérieurement, ce sont des montagnes russes. Tout est tellement mélangé que j'ai du mal à trouver les raisons des pourquoi. Tout chez Laura était dans le ressenti. C'est-à-dire que elle ressentait violemment sa vie, mais elle n'avait pas les mots pour pouvoir décrire. Elle n'avait pas les mots pour pouvoir dire ce qui n'allait pas vraiment. Ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait des insomnies, des palpitations, qu'elle voulait aller au mariage de son amie, mais qu'elle était bloquée. Elle ne pouvait pas y aller. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître à ce niveau. On ressent violemment des choses qu'on ne peut pas nommer. Et comme on ne peut pas les nommer, on ne peut pas les expliquer. Et comme on ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les partager. Et quand on essaie de les partager, on n'utilise pas les bons mots, ce qui fait que la personne en face va trouver que ce qu'on dit est léger. Ah non, mais c'est pas si grave que ça. Ah non, tu penses que c'est profond, mais en fait non, tu te fais des films. Ah non, tu peux traverser ça, il suffit juste que tu sois un peu plus motivé. Pourtant, il y a une raison scientifique pour laquelle tu n'arrives pas à nommer certaines choses. C'est parce que dans l'évolution de l'humain, le langage est arrivé bien après le ressenti. Et quand je parle d'après, je parle de milliers d'années. C'est-à-dire que l'humain, dans son paramétrage, a eu le temps d'affiner ses ressentis sur des milliers d'années avant que le langage n'arrive. C'est la raison pour laquelle parfois tu te retrouves en train de réfléchir profondément, mais sans aucun mot. Si on te demande à quoi tu pensais, tu ne peux pas le dire. Parce que ça s'est fait dans une partie de ton cerveau qui n'a pas besoin de langage pour s'exprimer. Les mots, le langage, c'est une traduction du ressenti. Sauf que Comme toute traduction, elle a ses limites. Il y a des mots qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres. C'est ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton cerveau. Tu vis l'expérience de ressenti profond qui n'existe pas dans le langage. Tu ne peux pas les mettre en mots, raison pour laquelle tu ne peux pas l'expliquer et que les gens disent « tu exagères ». Laura avait déjà essayé de s'en sortir seule. Elle avait essayé d'appliquer les conseils trouvés sur Internet. Elle avait essayé les vision boards, les listes de pour et contre, les objectifs à court terme, les livres. Elle en avait beaucoup lu. Elle avait essayé d'appliquer les recommandations, mais ça tenait 2 semaines, 3 semaines et ça retombait. Et ça retombait parce que ce qu'elle prenait, elle le prenait dans le tas. Il n'y avait aucune adaptation, aucune personnalisation, aucune individualisation par rapport à sa situation à elle. Ce n'était pas forcément fait pour elle, c'était fait pour des cas généraux. Ce n'était pas construit sur ce qui la faisait vraiment bloquer, elle, en tant que personne, dans la situation qui lui est propre. Rien n'avait tellement marché qu'elle avait perdu totalement espoir. Et quand je lui ai demandé dans la fiche d'information comment elle se voyait après, une fois ces obstacles dépassés, elle n'arrivait même pas à répondre. Elle a noté ceci. J'ai du mal à m'imaginer après avoir surmonté ne serait-ce qu'un tiers de mes défis, tellement elle pensait qu'ils étaient insurmontables. Elle ne pouvait même pas visualiser une version d'elle-même sans ces limites-là. Ce n'était pas une question de manque d'imagination, parce qu'elle était convaincue que cette version-là n'existerait jamais. Ce n'était pas fait pour elle. La réponse, par contre, qu'elle a réussi à me donner, c'est quand je lui ai demandé comment elle voulait se sentir. Elle a répondu avec un seul mot, libre. Revenons sur le projet que Laura m'a soumis, aller au Cameroun pour soutenir son amie dans son mariage. Le problème de Laura était simple. Elle ne manquait pas d'argent. Elle a un bon travail et gagne très bien sa vie. Elle est majeure, donc elle n'a pas besoin d'autorisation parentale. Elle est célibataire et sans enfant, donc il n'y avait pas de mari à convaincre ou d'enfant à faire garder. Pourtant, Laura n'arrivait pas à se dire « j'irai à ce mariage ». Le mariage, en réalité, n'était pas le problème. C'était une manifestation du problème, une des nombreuses manifestations du problème qu'elle avait vraiment. Et le problème de Laura, c'était l'autorité sur elle-même. Elle a grandi dans un environnement où elle n'avait absolument aucune autorité. Elle a des grands frères. Elle en a beaucoup, mais alors beaucoup. Elle a des grands frères nettement plus âgés qu'elle, qui peuvent avoir l'âge de ses parents. Donc, elle a grandi dans un environnement où elle avait non seulement ses parents, mais aussi ses grands frères qui faisaient office de parents. Elle est la dernière. Donc, elle n'a jamais eu l'opportunité dans sa vie de prendre une décision ou de faire entendre sa voix. Elle a été paramétrée pour servir, pour accepter, pour se conformer, pour obéir. Et cette architecture-là a structuré la manière dont elle vit ses relations. C'est aller au-delà du familial, ça atteint l'amoureux, ça atteint l'amical. Elle est paramétrée pour se conformer et obéir. Donc, quand elle a un projet, la manière dont elle le soumet à son entourage, ce n'est pas une information, c'est une question, c'est une demande d'autorisation. Et ça, elle ne s'en était jamais rendue compte. Elle n'informe pas, elle demande. Elle demandait littéralement la permission et naturellement, la réponse était presque toujours non. Et ce n'était pas un non parce que le projet était mauvais ou parce que les gens à qui elle le soumettait étaient mauvais, non. Mais c'est parce que chaque fois que Laura se choisissait, elle retirait quelque chose à la personne en face. Elle retirait un privilège à cette personne-là. Et ce privilège était sa disponibilité totale pour la personne. Les dynamiques relationnelles étaient claires. On demande et Laura satisfait. Si elle n'est pas là, comment est-ce qu'on fait pour demander et comment est-ce qu'on fait pour être satisfait? Donc naturellement, la réponse est non. Et tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas parce que la personne en face est mauvaise. Non, c'est un paramétrage naturel. Laura les a habitués à être disponibles pour eux et à ne jamais dire non. Donc, pourquoi est-ce qu'elle irait quelque part où ils ne pourraient pas l'atteindre? Ils ne pourraient pas, je vais pas dire se servir d'elle, je vais dire la voir à leur service. Laura ne savait pas qu'elle avait le droit d'informer plutôt que de demander. Elle ne savait même pas que c'était une option. Le mariage au Cameroun, c'était ça au fond. C'était un test qu'elle se posait à elle-même. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose pour moi, juste pour moi, pas pour rendre service, pas pour ne pas décevoir, mais pour moi. Elle ne savait même pas si elle en avait le droit. C'est la raison pour laquelle elle disait « Ma situation est désespérée. Je vais devoir avoir l'autorisation d'absolument tout mon entourage, familial, amical, professionnel, pour pouvoir aller à ce mariage. Et ce n'est pas possible que tout le monde s'accorde sur un oui. Je ne peux pas aller au mariage. » Ce que je viens de décrire, ne pas savoir se choisir, demander la permission pour exister, construire sa vie autour du regard des autres, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Je l'ai moi-même vécu. Il y a un peu plus de 10 ans encore, ma vie était pilotée par les autres. J'étais incapable de prendre la moindre décision qui venait vraiment de moi. En plus de ça, ma valeur, je la construisais sur ce que j'accomplissais. Les jours sans résultats visibles, je ne valais absolument rien. Et je n'avais absolument aucune conscience du fait que je fonctionnais comme ça. Mon environnement m'avait paramétré de cette manière-là, et ce paramétrage avait structuré une réalité sur laquelle je n'avais aucun contrôle parce que je ne comprenais pas l'origine, je ne comprenais pas les dynamiques et donc je ne voyais pas le résultat. Pour moi, c'était juste, je suis emprisonnée dans cette réalité-là, je ne m'en sortirai jamais parce que pour que je m'en sorte, il faudra que les autres me libèrent. Et comme ils ne me libéreront jamais, il n'y a absolument aucune chance que j'en sorte. Les similitudes entre Laura et moi, ce n'est pas tant la surface du problème, mais la mécanique qui se joue derrière. Et la grande différence entre elle et moi à l'époque, c'est qu'elle, elle a quelqu'un en face. Elle m'a moi. Moi, j'ai dû trouver les réponses toute seule. J'ai dû construire mes outils toute seule pour m'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle dans mon travail, je suis très à cheval sur la personnalisation de l'expérience d'accompagnement. Même si les symptômes semblent pareils, les environnements sont différents, les ressentis sont différents, la personne en face a une histoire différente de la deuxième personne en face. Donc, personnaliser. Les one size fits all ne marchent pas dans ces contextes-là. C'est la raison pour laquelle les livres ont cette grande capacité à informer, mais il ne faut jamais oublier que ça ne parle que d'un contexte général. Toujours général. Il n'est pas adapté à ta réalité, à toi, parce que toi, ton histoire est différente. On parle de généralité. C'est comme si tu dis, j'ai mal à la tête. Quand tu iras chez un médecin, il te dira, oui, beaucoup de gens ont des maux de tête, mais toi, ton mal de tête vient du manque de sommeil. L'autre, son mal de tête vient du fait qu'elle porte des migraines. L'autre, son mal de tête vient du fait qu'elle a cogné la tête hier quand elle est tombée au sol. Vous avez le même problème, mal de tête, mais ça ne peut pas être soigné de la même manière. C'est pour ça que je parle toujours d'individualisation et de personnalisation de l'expérience. Revenons sur Laura. Ce que je viens de décrire en ce qui la concerne, beaucoup appelleraient ça un manque de confiance en soi ou un problème de limite, ou alors un travail sur l'estime de soi. Ce sont les mots qu'on met souvent dessus et beaucoup de femmes viennent vers moi avec les mêmes mots. Je manque de confiance en moi, je ne m'estime pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à poser des limites. Tout ça, ce ne sont que des symptômes du vrai problème. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas comme ça que je le vois et ce n'est pas comme ça que je travaille. Ce que Laura avait, c'est un problème de structure. Toutes ses décisions étaient construites sur une base extérieure à elle, c'est-à-dire le regard des autres, leur approbation et surtout leur confort à eux. Une base qui bougeait tout le temps selon les humeurs, les peurs, les besoins de chacun. Quand ta boussole, c'est le regard des autres, tu ne peux pas tenir un cap. Parce que ce cap change au gré du vent. Tu ne peux pas anticiper tous les jours le ressenti de 4000 personnes et t'ajuster à cela tous les matins. Tu n'as pas de structure. Tu ne peux pas construire quelque chose qui dure sur une base qui tremble. Ce qui manquait à Laura, c'était une boussole propre, c'est-à-dire ses valeurs, ses principes, ses standards. Ce qui est non négociable pour elle. Pas pour sa mère, pas pour ses amis, pas pour ses frères, mais pour elle-même. Ce n'est pas un problème de motivation comme on le pense souvent. Ce n'est pas un manque de courage. C'est un problème d'architecture et l'architecture, ça se construit. Le problème que Laura m'a emmené, c'est-à-dire le mariage, le voyage, la décision qu'elle n'arrivait pas à prendre seule, il a été réglé en 3 semaines. La quatrième semaine, Laura était au Cameroun, libre de ses mouvements. Et ce que je peux dire ici, parce que ça, il faut bien le noter. Beaucoup pensent que s'affranchir, ça veut dire claquer des portes, ça veut dire rompre des liens, blesser des gens, manquer de respect à des aînés. Non, Laura n'a claqué aucune porte, elle n'a brisé aucun lien, elle n'a manqué de respect à personne. On a travaillé profondément ensemble et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a arrêté de demander la permission. Elle a informé. Et parce que elle l'a fait d'un endroit solide, c'est-à-dire que pas depuis la colère, la peur ou la revendication, personne n'a eu de prise sur cette décision. Le pouvoir ne se négocie pas quand on ne le soumet pas au vote. Laura n'a pas demandé à prendre ce pouvoir, elle a pris. Son accompagnement durait 3 mois. En 1 mois, problème réglé. Les 2 mois qui ont suivi n'étaient pas pour régler le problème vu qu'il est déjà réglé. Ils ont servi à construire ce qui fait qu'elle n'aura plus jamais besoin de demander la permission à quelqu'un pour vivre sa vie. Vous me direz, oui, si en 3 semaines c'était réglé, ça veut dire que c'était simple. Non, ce n'est pas le problème qui était simple. Loin de là. C'est que quand on travaille sur ce qui détermine vraiment les décisions, les choses bougent vite. Ce qui prend du temps, c'est de construire pour que ça ne revienne pas. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec Laura, 1 an et demi par là. Et elle m'a écrit récemment. Elle a dit ceci. Elle dit qu'elle est pilote de sa vie et de ses décisions et qu'elle vit une vie dont elle n'aurait jamais osé rêver. Et dans un deuxième message, elle dit ceci. Depuis plus d'un an, je vis plus que je ne subis ma vie. Et ça, ça n'a pas de prix. Je te parle de Laura aujourd'hui parce que son histoire ressemble à beaucoup d'histoires que j'entends. La surface change, c'est un voyage, un projet professionnel, une relation, une décision qu'elle n'arrive pas à se prendre. La mécanique, elle, reste la même. Rien ne tient. Et pas parce qu'il manque de l'effort, mais parce qu'il manque un cadre. Et c'est exactement ce sur quoi je travaille dans le cercle décision et structure. 4 semaines, 6 femmes maximum, 1 session par semaine. On pose des décisions qui tiennent. On construit une organisation qui soutient ce que tu veux vraiment bâtir. On arrête de recommencer à zéro tout le temps. La prochaine session commence le 20 avril et l'entrée se fait sur candidature parce que le format est restreint et que ça compte pour la personnalisation. Le lien pour candidater est dans les notes de l'épisode. Avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que l'histoire de Laura a soulevé chez toi? Qu'est-ce que tu as reconnu? Qu'est-ce que je n'arrive pas encore à nommer? Envoie-moi tes questions. Pose-les-moi en commentaire, envoie-les-moi par un message, je les lis toutes. Jeudi prochain, je sortirai un article sur le même sujet sur mon site befoun.com. L'article sera sur le même sujet, mais sera exploré différemment. La réponse à tes questions fera donc partie de ce regard qui va plus loin. Si en écoutant cet épisode, tu as reconnu quelque chose, pas tout, juste quelque chose, tu sais où me trouver. Sur ce, people bye.